Bonjour à tous. Cette semaine dans Évasion Romanesque, je vous propose d'entrer dans un petit roman écrit à quatre mains. Steve Berry et M.J. Rose nous entraînent dans une nouvelle aventure de la série Cassiopée Vite, compagne de son héros, Cotton Malone. Le manuscrit cathare est édité en anglais en 2019 et la traduction en français est disponible depuis 2021. Steve Berry est avant tout avocat, mais c'est sa passion pour l'écriture qui l'a fait connaître. M.J. Rose, quant à elle, travaille dans la publicité avant de se lancer en 1998 dans la carrière d'éditrice. Elle auto-édite ses romans et c'est en 2010 que le fruit de leur première collaboration voit le jour avec le premier tome de la série Cassiopée Vite. En plein travail de reconstruction du château de Givors avec son collègue et ami Victor, il découvre, en creusant la terre, un livre très ancien, enfermé dans une magnifique boîte en or. Écrit en occitan, il s'agit du seul exemplaire du livre d'heures de ce genre, manuscrit richement enluminé et dont la couverture, très atypique pour un livre religieux, revêt, entre autres, la croix de Toulouse. Shelby Randall, journaliste autorisée sur le site pour couvrir un reportage sur la reconstruction du château, prend de nombreuses photos de cette découverte et, sans autorisation préalable, publie sur Internet les clichés de cette découverte. Les nouvelles de l'art sont suivies par des amateurs, des collectionneurs, souvent très riches, et Cassiopée s'attend à des demandes d'achat pour sa découverte, mais pas si rapidement. Aux premières heures du lendemain de la trouvaille, Roland Bellancourt sonne à sa porte pour tenter d'obtenir ce livre, à n'importe quel prix. Qu'il ne soit pas à vendre n'est pas un problème pour lui. Il a l'argent, le pouvoir, et lorsqu'il veut quelque chose, il arrive à ses fins, quels que soient les chemins empruntés, et le fait savoir clairement à Cassiopée alors qu'il repart bredouille. Mais le lendemain matin, un cri retentit à l'extérieur. Elle bondit de sa chaise et se précipita vers la porte-fenêtre. Sur la pelouse, juste au-delà de la roseraie, Victor et Shelby poursuivaient une silhouette encapuchonnée en lui criant de s'arrêter. Que se passait-il? La silhouette, qui était véloce et avait une bonne avance, disparut derrière les arbres juste au moment où Shelby tombait durement par terre. Victor continua, mais Cassiopée se précipita pour voir si Shelby ne s'était pas fait mal. Se joindre à la poursuite en peignoir aurait été peu pratique de toute façon, vu qu'elle ne portait pas grand-chose en dessous. « Es-tu blessé ? » demanda-t-elle. « Le livre !» dit Shelby en haletant. « Le livre, il faut le récupérer !»« Quelqu'un a un manuscrit ?» Shelby hocha la tête, luttant pour reprendre son souffle. « Ça va, je vais bien. Cette salope m'a assommée avec un plateau en métal. J'ai la tête qui tourne. Fonce, récupère le livre !» Inutile, dit Victor qui revenait en courant. Il avait une égratignure au visage et un mince filet de sang coulait le long de sa joue droite. La boîte en plastique contenant le livre d'heures était entre ses mains. « Je l'ai, espérant qu'il n'a pas souffert. » Il le lui tendit. « On ne peut pas en dire autant de ton visage, » observa Cassiopée. Il fit un geste signifiant que c'était rien. « J'ai couru à travers le verger, j'ai réussi à la plaquer au sol, mais elle m'a donné un coup de pied dans le ventre et s'est enfuie. » Il exhiba l'objet. « Elle a laissé ça, derrière elle. » C'était une première, une véritable tentative de vol. « Nous sommes trop laxistes en matière de sécurité, » dit Victor. « Il serait peut-être temps d'installer de nouveaux dispositifs de surveillance. » « Peut-être. » Pourtant, cela faisait deux personnes intéressées par le manuscrit, ou peut-être une seule, faisant deux tentatives différentes. Il était temps de rendre visite à Roland Bellancourt. Mais c'est la dernière des perfectis, prêtre cathare, qui a essayé de voler le manuscrit. Cassiopée, étant certaine qu'il s'agit d'une opération de Bellancourt, lui rend visite, chez lui, et tente de comprendre la raison de son grand intérêt pour ce livre d'heures en particulier. Elle apprend peu de choses, mais une information capitale l'amène à faire des recherches sur des érudits du catharisme. Elle prend contact avec la seule personne qu'elle ait en la matière, Simone Forte, qui de plus est l'ex-femme de Bellancourt. Un énorme contentieux existe entre les anciens époux. Lui est catholique pratiquant, elle, cathare convertie. Et la raison pour laquelle chacun veut le manuscrit est très différente. Simone et Cassiopée vont travailler ensemble sur le manuscrit au château de Givors. Elles vont découvrir que ce livre n'est autre qu'une clé pour trouver la Bible des cathares. Simone était venue avec un ensemble de vieilles cartes géographiques, certaines remontant au XIIIe siècle. Pas des tirages originaux, mais des images haute résolution sur un ordinateur portable, pouvant donc être agrandies pour en apprécier le moindre détail. elle avait également apporté un tableau de symboles, dont beaucoup apparaissaient dans les différentes illustrations du livre, si joliment dessinées et avec tant de soin qu'il ressemblait plus à de la création artistique qu'à de la typographie. « Qu'est-ce que c'est ?» lui demanda Cassiopée. Les Cathares vivaient à une époque pleine de dangers, mais ils avaient tout de même besoin de communiquer. Ils ont donc inventé un langage qui leur était propre et que les Perfecti étaient les seuls à utiliser. Nous le savons parce qu'ils avaient conservé une sorte de pierre de Rosette qui permettait d'interpréter ces symboles. Celle-ci n'a été découverte qu'au début du XXe siècle. C'est à partir d'elle que ce tableau a été dressé. Cassiopée étudia l'étrange assortiment de gribouillis dont les formes n'avaient ni queue ni tête pour elle. Précisément le but recherché, sans doute. À ma connaissance, ajouta Simone, personne à l'époque n'a décrypté le code, ce qui veut dire qu'il a fonctionné. Dieu merci, un moyen de le lire a été conservé. On retrouve tous ces symboles ici, dit Simone, sur toutes les pages de ce livre. Cela étant, la colombe en est la clé. Elle est bien dessinée sur chaque page, la tête tournée vers le ciel, les ailes déployées, comme ce que vous avez vu hier dans mon laboratoire. Sauf pour ce qui est de la 26e illustration. Là, le dessin est différent. Ça ne peut pas être une simple erreur. Le décryptage effectué, les deux femmes se rendent dans les Pyrénées sans savoir qu'elles sont suivies et épiées et sur le point de faire la plus grande découverte historique pour les parfaits, sans savoir non plus que c'est au péril de leur vie.